ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emporté sans retour. Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre ce jour?
Le soir, comme tous les soirs, je fais ma routine. Je me décape la peau avec le Neutrogenase saveur pamplemousse rose pour les boutons. 100 ml, 8,90€. Rapport qualité-prix imbattable. Odeur de chiottes, mais bon, qu'est-ce que j'ai plus besoin d'avoir des spots plein la face. Je m'épile la moustache avec la cernère, mais ça me fout plus les nerfs que ça m'enlève de poils. En fait, juste ça m'irrite la peau et après ça me fait des boules rouges. On dirait j'ai des hémorroïdes de moustache. Oui, allô? Spielberg. Je cherche ma voix de star, celle qui me distingue, la voix étoile, celle qui dit je suis partout, mais qu'on me change de chambre en fait. Hors de question. Trop de choses folles se passent pour qu'elle arrive de manière avancée. Le prof, il a dit que je déborde de partout. Le Neutrogena. Les mains de Dylan, les commentaires de mon prof et moi, on forme un tout qui coule.
Petit banlieusard, j'ai fait du rap pour me libérer du mal. J'aurais pu finir à la MAF, le cœur criblé de balles. J'ai pris la plume pour qu'elle m'éloigne de la mort, pour que ma mère n'aille pas à la morgue pleurer sur mon sort.
Salutations, vous êtes bien l'écoute de Canal Sud sur les 92.2, c'est la voix du mag qui commence.
Je suis dur mais sincère, moi j'étais seul et sans frère, fallait être sûr, fallait assurer sans père. Petite banlieusarde, je reste fasciné par les armes, fasciné par Manny, Ginger et Sam.
Aujourd'hui, comme cadeau de Noël, je reçois Solène Celseux, qui est autrice, interprète et performeuse. Dans L'Icône, son premier seul en scène, elle donne corps à Soso, une adolescente de 14 ans, qui rêve de devenir une star depuis sa chambre perchée dans une tour de béton.
Adolescent, je n'avais que ma chambre pour rêver d'avoir la chance que les chants un jour me chantent.
À travers le chant, le mouvement et une parole frontale, Solène explore les rapports entre désir de reconnaissance, déterminisme sociaux, rage adolescente et construction de soi. L'Icône est un spectacle physique et intime qui interroge la réussite, les figures d'idoles et la violence des récits dominants, tout en faisant de la chambre d'une cité ordinaire un espace de résistance, d'imaginaire et de survie.
Que je le veuille ou non, je suis qu'une petite banlieusarde. Ça s'entend quand je parle, ça se devine quand je me sape.
Bonjour Solène, bienvenue au mag.
Bonjour.
Je voulais monter sur scène parce que j'aimais le show, parce que j'aimais les woyoy.
T'as réglé tes histoires de parking, c'est bon?
C'est bon, j'ai réglé, bon. Ouais.
Hey, pour une resta, c'est fou, tu dois quand même payer le
ouais,
parking.
Ouais, je comprends pas, en plus ma voiture elle est léopard et tout.
Il n'y a pas une jurisprudence, les voitures léopard ne paient pas le parking.
Bah, je croyais, mais non.
Bon. Alors écoute, avant d'entrer dans le spectacle, est-ce que tu peux, même si c'est un exercice difficile, te présenter brièvement en quelques mots?
Bien sûr, du coup, moi c'est Solène Celseux, et comme tu l'as dit, je suis interprète et j'écris. J'ai eu la chance de faire une école supérieure de théâtre pendant 3 ans qui m'a formée et qui m'a un peu ouvert la porte de la performance et de tout ça. Et là-bas, j'ai pu créer donc l'Icône, une première version où j'ai mis en scène. Et voilà, aujourd'hui, j'ai récupéré un peu le flambeau du jeu.
C'était où?
C'était à la Comédie de Saint-Étienne.
Est-ce que tu te souviens du moment où Soso est apparu pour la première fois comme un équilibre entre un personnage de théâtre et une parole située ancrée socialement?
C'est un peu particulier parce que du coup cette pièce elle est autobiographique, du coup Soso elle est là depuis le début, d'ailleurs Soso c'est mon surnom, et j'avais pas envie d'inventer un prénom à ce personnage, de le distancier avec moi, et j'avais justement envie d'aller plonger un peu là-dedans. Mais la première fois que du coup je suis entrée dans le processus de création, c'était à partir de la comédienne, parce que ça me semblait important qu'il y ait cet échange entre nous deux, tout en mettant un peu de mon histoire, de mon récit. Et après, donc j'ai fait venir une dramaturge et co-autrice sur la pièce qui s'appelle Mélissa Mambo-Bangala, qui m'a aidée justement à mettre une forme de distance pour pas que je sois que dans mon récit hyper intime. Mais du coup, Soso, elle est apparue quand je pense que j'étais enfant et que ben, ma maman n'allait pas très bien et que sur mon petit canapé, je lui disais de s'asseoir et je lui faisais des spectacles et je faisais le clown comme ça avec ma sœur. On faisait, ouais, on faisait des grandes soirées de spectacles, si c'était pas la nouvelle star à la télé.
Je cherche ma voix de star, celle qui me distingue, la voix étoile, celle qui dit je suis partout, mais qu'on me change de chambre. Hors de question.
Coucou maman, si tu m'écoutes. Non, je pense que j'ai pas pris en charge ma mère. On a en effet une histoire de famille qui est bien particulière et que plutôt j'avais beaucoup de respect pour elle et que du coup je pense que même si j'étais une ado chiante à plein d'endroits, j'ai jamais pu être une ado insolente. Enfin si, bon, là elle rigolerait. Évidemment j'ai été insolente, mais pas insolente au sens, pas dans l'irrespect.
Quand il a fallu te replonger dans tes souvenirs très intimes pour écrire ce spectacle, qu'est-ce que tu as dû aller chercher en toi émotionnellement pour l'écrire, pour la jouer? Et comment tu fais en fait pour concilier, je dirais, la parole située et la mise à distance nécessaire d'un personnage, quoi?
Et ben justement c'est là où le rôle de Mélissa il a été hyper précieux sur ce spectacle, parce que moi je pense que j'étais avec un produit très brut à la base de j'ai besoin de sortir quelque chose de moi, j'ai besoin de sortir ce lien avec ma mère, ce lien à la précarité sociale dans laquelle on a été plongé. Enfin, en gros j'ai grandi avec une daronne qui nous a élevés à quatre seuls et du coup avec l'absence du père, avec un récit quand même globalement assez commun de toutes les personnes de la banlieue précaire, et j'avais besoin d'aller plonger là-dedans parce que j'avais besoin de transformer. Et je pense que c'est cette transformation, elle m'a été nécessaire parce que bah quand tu fais du théâtre tu grandis entouré quand même d'une classe supérieure plutôt bourgeoise et du coup tu te retrouves dans presque aucun récit et moi j'y arrivais plus, je sentais que j'étouffais quoi en école sup et même encore avant au conservatoire, et j'avais besoin de me dire qu'en fait cette histoire elle a aussi une valeur, pas que c'est pas que mon histoire, c'est l'histoire de plein de personnes et je peux la rendre comment dire universelle, mais pour ça c'est clair que la distance elle a été complètement amenée par le fait de rentrer dans un récit théâtral et donc d'être accompagnée d'une personne qui m'aide à la dramaturgie et qui m'aide à transformer le souvenir en anecdote.
D'ailleurs, je suis en train de me dire, là, tu parles de théâtre, de cours de théâtre, d'apprentissage aussi, peut-être de technique, de texte, dans lesquels tu ne te reconnaissais pas. Ça arrive quand, en fait, cette idée de différence? Parce qu'au théâtre, effectivement, au début, j'imagine que, enfin, peut-être que tout le monde fait les mêmes rôles, je ne sais pas vraiment incarner, t'apprends une technique, mais à un moment donné, le texte va devoir aussi parler pour toi et de toi.
Ouais. C'est une grande question à laquelle j'ai pas encore tout à fait répondu. J'ai beaucoup de mal à... Enfin, typiquement, moi, j'ai jamais réussi à jouer des classiques, je crois. De toute façon, on me met souvent dans le rôle pas hyper intéressant. Donc, par exemple, si on prend l'exemple des classiques, si j'ai joué Charlotte avec Charlotte et Pierrot dans Molière, donc dans Don Juan. Donc, c'est la pêcheuse, je crois. Donc, voilà, en gros, c'est la paysanne, quoi. Mais ça me va, hein.
D'où me vient, la belle, une rencontre si agréable? Quoi, dans ces lieux champêtres, parmi ces arbres et ces rochers, on trouve des personnes faites comme vous êtes?
Vous voyez, monsieur.
Vous êtes de ce village?
Oui, monsieur.
Et vous y demeurez?
Oui, monsieur.
Vous vous appelez?
Charlotte, pour vous servir.
Oh, la belle personne. Et que ses yeux sont pénétrants.
Monsieur, vous me rendez toute honteuse.
Bah, n'ayez point de honte d'entendre dire vos vérités. Peut-on voir rien de plus agréable? Tournez-vous un peu, s'il vous plaît. Oh, que cette taille est jolie. Haussez un peu la tête, de grâce. Oh, que ce visage est mignon. Ouvrez vos yeux entièrement. Ah, qu'ils sont beaux. Que je vois un peu vos dents, je vous prie. Oh, qu'elles sont amoureuses, ces lèvres appétissantes. Pour moi, je suis ravi. Et je n'ai jamais vu une si charmante personne.
Monsieur... Cela vous plaît à dire et je ne sais pas si c'est pour vous railler de moi.
Moi, me railler de vous? Dieu m'en garde. Je vous aime trop pour cela, et c'est du fond du cœur que je vous parle.
Je vous suis bien obligée, si ça est. Tout ça est trop bien dit pour moi et je n'ai pas d'esprit pour vous répondre.
Sganarelle, regarde un peu ses mains.
Oh, fille, monsieur, elles sont noires comme je ne sais quoi.
Que dites-vous là? Elles sont les plus belles du monde. Souffrez que je les baisse, je vous prie.
Oh, monsieur, c'est trop d'honneur que vous me faites. Et si j'avais su ça tantôt, j'aurais pas manqué de les laver avec du son.
Franchement, c'est un grand mystère et mais je dis pas que j'en ai pas la capacité, mais enfin, en gros, ta question, c'est comment je me sens vis-à-vis du fait que dans le théâtre, c'est souvent des personnages...
Des archétypes, alors que l'idée, c'est quand même de t'autonomiser à travers un texte que tu fais, c'est questionnant sur aussi le théâtre en général.
Oui, de toute façon, en fait, je suis pas la seule à ressentir cette distanciation. Bien je pense sûr. Qu'il y en a plein, enfin, je pense à énormément d'amis qui se posent des questions. Enfin, le théâtre, c'est un milieu blanc bourgeois... plutôt validiste, plutôt grossophobe. Enfin, on est plusieurs à de toute façon, on ne peut pas se sentir bien dans les personnages qui nous sont attribués si on se retrouve à jouer du classique. Quoi. Mais, ouais.
Ton seul en scène questionne aussi ça. Je trouve ça bien qu'on arrive progressivement aussi à dynamiter les pensées normatives autour, par exemple, du théâtre qui s'ouvre malgré tout de plus en plus à d'autres formes d'expression. De morphologie, etc.
Oui, mais... Il n'y aura pas le choix, je crois.
Tu as choisi l'adolescence pour l'âge de ton personnage. Qu'est-ce que cet âge autorise? Alors, je pense à l'excès, la rage, la démesure, la désinhibition. Pourquoi aussi cet âge-là, à savoir l'adolescence, revient si souvent comme un espace où on peut performer et être excessive?
Moi, j'ai choisi l'adolescence parce qu'en effet, je trouve que ça permet un peu des libertés. En fait, on quitte l'enfance, on quitte un peu ce côté naïf, on n'est pas totalement dans l'adulte qui essaie de tout contrôler, tout mesurer. Du coup, je trouvais ça intéressant, cet âge-là, mais aussi parce que tout simplement, genre, mon récit s'inscrit dans cette période-là. Je pense qu'aussi, il y a un truc qui est fantasmé de l'adolescence qui serait, genre, justement, l'excès, la rage, la démesure. Je pense qu'on n'a pas tous des adolescences qui nous permettent ça. Et moi, je pense pas avoir trop été une adolescente dans ça, justement. Et plutôt, c'est jeune adulte que ça a commencé à s'ouvrir, mais... Enfin, en tout cas, j'étais une ado violente, ça, c'est sûr. Très bien. Enfin, j'avais beaucoup de violence et je pense que la colère, elle est sortie que quand je suis devenue adulte. C'est un peu l'inverse, quoi, pour mon histoire à moi.
Faut pas lâcher, putain. Faut pas se laisser bouffer, tu vois. Parce qu'un caddie bien rempli, un job de merde, petit mec, on se passe. C'est pas la vie, ça. C'est la mort. Ils peuvent appeler ça comme ils veulent, de l'arrogance, ils veulent. Arriver à 30 ans, tu te dis, bim, ta vie elle est déjà passée, tu sais même pas quoi. Si t'avais su, t'aurais fait autrement. Mais en fait, c'est grave trop tard. Parce qu'autrement, c'était l'enfance, tu vois. C'était quand tu sentais le monde. Quand t'avais des rêves. T'avais tout, sans avoir rien.
Et du coup, oui. Ce que je veux dire, c'est que je pense que toute la colère accumulée, qui sont des couches qui arrivent depuis l'enfance, parce que de toute façon, depuis mon endroit, c'était injuste ce que je vivais. Ça s'est accumulé sur l'adolescence, parce que moi, je pense que j'étais une ado violente, parce que le conflit, je le réglais par de la violence. Enfin, il n'y avait pas de filtre, en fait. Ça explosait direct. C'était soit gardé, soit dans l'explosion. Et je pense que c'est en devenant adulte que j'ai appris à me dire, mais en fait, j'ai le droit d'être en colère. Et j'ai le droit de justement vivre cette colère et en faire peut-être quelque chose. Et voilà.
Ça me fait penser à notre rapport à la colère. Souvent, on a l'impression que l'adolescence serait le seul âge où il est encore en partie excusable, alors qu'en devenant adulte avec des milliards de guillemets, cette colère-là devrait s'estomper un peu, comme si la colère ce serait une émotion puérile, infantile, illégitime, quelque chose qu'il faudrait dépasser plutôt... qu'écouter. Toi, j'ai l'impression que tu as su l'écouter pour la transformer en faire quelque chose. Tu parlais de flambeau tout à l'heure, donc j'ai bien aimé cette idée de mettre le feu à ton écosystème intérieur, extérieur. Toi, ton rapport à la colère, justement, tu veux plutôt quoi, la dompter, la maîtriser ou...
Ouais, en faire quelque chose. La collectiviser, sans colère à plusieurs. Je pense que moi, j'ai trouvé beaucoup... l'écriture, ça m'a quand même pas mal aidé dans... comment assimiler ma colère. Mais après, en fait, des fois, ma colère, j'ai juste envie qu'elle sorte et du coup, j'envoie chier les gens. Ça m'arrive aussi beaucoup. Enfin, quand j'ai envie d'en faire un petit peu quelque chose, oui, je laisse plutôt elle qui devient un peu moteur et moi, je perds le contrôle dessus et juste j'écris et je me laisse aller, quoi. Même pas de maîtrise.
Ma colère, elle est toujours légitime, hein, qu'elle soit très construite, très élaborée, ou juste en réaction à, même s'il n'y a pas d'explication, une colère même qui n'est pas argumentée, reste malgré tout légitime à quelque chose, quoi.
J'ai eu un son de Kazé qui est venu en tête.
C'est-à-dire que si tu es en colère, c'est que tu n'es pas capable de raisonner logiquement, puisque... En tout cas, en Occident, la colère, c'est l'ennemi de la réflexion. Ça, c'est un truc paternaliste, tu vois. C'est façon de dire que tu es primitif. Tu ne sais pas organiser ta pensée. Ça, c'est une façon de te disqualifier. C'est une façon de disqualifier le discours. Et c'est une façon aussi de s'assurer d'un certain confort. C'est-à-dire, je veux bien t'entendre, mais dis-le-moi gentiment que ce soit pas inconfortable. Non, des fois, c'est un crachat dans ta gueule, tu vois, que j'ai envie d'envoyer pour que tu comprennes. Ça, c'est réel. Ça, c'est aussi une envie de confort. C'est-à-dire que ton interlocuteur, dans sa toute puissance, hein, dans sa grande impunité, ce qu'il demande, tu vois, à l'oppressé, c'est de lui raconter son oppression et sa souffrance, mais vraiment en des termes qu'il puisse entendre, c'est-à-dire à savoir avec la douceur, l'amour et la gentillesse et la tendresse nécessaire. Mais tu sais, c'est pas un degré d'insolence incroyable, quoi.
Puisque le banlieusard et le gosse d'immigrés manquent de civisme et que la France l'appelle à corps et à cri, qu'elle veut de lui un effort de citoyenneté, j'ai décidé, moi, de lui donner le meilleur de moi-même. Ce que je sais faire de mieux, ce que je suis de mieux, je te le donne. Mon beau pays, je viens vous léguer mon dégoût, mon écho, mon sale goût du déclin et le bout de mes mégots. Bon gré, mal gré, en grand, en grain, un brin de mon chagrin, surtout s'il est gros. Mon rap pour des clous, mes rares coups d'éclat, mon dépit et en dépôt tous mes pires défauts. Mes torts, mes tares, mon sale caractère et même mes factures de prolétaire s'il le faut. Mon envie de gerber, mon jargon vous larguez, mon genre bagui et mur tagué, mon argot, mon orgueil, mon ercaille, la crasse de mon bercail, le plus bel ongle incarné de mes orteils, mes embrouilles, broutilles, mes failles, entailles, ma tambouille, mon riz et lentille des Antilles, ma pagaille, ma gouaille, ma grisaille, ma ferraille et mon attirail de tours qui partent en vrille, mes excès, mes abus, mes rêves au rebut, mes habits bien avipés quand j'ai trop bu, mes plombés, toujours plombés, qui sentent bon, le vagabond, les escaliers. Calier nauséabond, ma peur du tombeau, mes procès verbaux, mon débit pour flamber, pour faire beau, mon humour en ré mineur et quart de ton et ses carnets dans ses cartons où je vous traite de con.
La banlieue, c'est vraiment ancré en nous, c'est un rapport au monde qu'on choisit pas.
C'est un rapport au monde de ouf. Enfin, moi en tout cas, pour mon choix d'avoir fait du théâtre, tu peux pas vivre sans colère si on vient d'un endroit précarisé et qu'on décide. Bah, en fait, c'est un choix aussi. Moi j'ai fait ce choix de faire du théâtre, j'aurais pu faire autre chose. Enfin, si ça me fait trop de violence, j'ai toujours le choix de partir, ça je me le dis tout le temps. Enfin, au bout d'un moment, souvent, hein, franchement, je me répète, je vais arrêter le théâtre, je vais revenir sur l'éducation pop, c'est ce que je préfère. Enfin, c'est tellement plus simple d'être entouré de gens que tu comprends. Et je crois que ma colère aujourd'hui, elle réside surtout dans ça, parce qu'en fait, il y a de la haine de soi qui est hyper diffuse.
Ce à quoi l'on a été arraché, ou ce à quoi l'on a voulu s'arracher, continue d'être partie intégrante de ce que l'on est. Les traces de ce que l'on a été dans l'enfance, de la manière dont on a été socialisé, perdure, même quand les conditions dans lesquelles on vit à l'âge adulte ont changé, même quand on a désiré s'éloigner de ce passé. Et par conséquent, le retour dans le milieu d'où l'on vient et dont on est sorti dans tous les sens du terme est toujours un retour sur soi et un retour à soi, des retrouvailles avec un soi-même autant conservé que nié. Affleure alors à la conscience, en de telles circonstances, ceux dont on aurait aimé se croire libéré, mais dont on n'ignore pas que cela structure notre personnalité, à savoir le malaise produit par l'appartenance à deux mondes différents, séparés l'un de l'autre par tant de distances qu'ils paraissent inconciliables, mais qui coexistent néanmoins dans tout ce que l'on est. Une mélancolie liée à l'habitus clivé, pour reprendre ce beau et puissant concept de Bourdieu. C'est bizarrement au moment où l'on entreprend de le surmonter, ou du moins de l'apaiser, que ce malaise souterrain et diffus revient avec force à la surface et que la mélancolie redouble d'intensité. ces sentiments avaient toujours été présents, et l'on découvre alors, ou plutôt l'on redécouvre, qu'ils étaient là, tapis au fond de nous-mêmes et agissant en nous et sur nous. Mais peut-on vraiment surmonter ce malaise? Apaiser la mélancolie?
Et c'est lié à un transfuge. On n'accompagne jamais le transfuge des personnes qui viennent de milieux précarisés dans de la culture entourée de personnes. Moi, au bout d'un moment, je me suis retrouvée entourée de Madeleine et Capucine qui ont fait Sciences Po et qui ont toujours tout eu. Et franchement, c'est dur de vouloir leur ressembler quand t'as pas les codes et que tu peux pas de toute façon. Donc ouais, carrément, ma colère, elle est très axée socialement, quoi.
Banlieusarde, j'ai fait du rap pour me libérer du mal. J'aurais pu finir à la MAF, le cœur criblé de balles. J'ai pris la plume pour qu'elle m'éloigne de la mort, pour que ma mère n'aille pas à la morgue pleurer sur mon sort. Ouais. Je suis dur mais sincère, moi j'étais seul et sans frère. Fallait être sûr, fallait assurer sans père. Petite banlieusarde, je reste fasciné par les armes, fasciné par Manny, Ginger et Sam. Moi c'est mon monde et je ne suis pas un capard. Je m'accapare le droit de rêver de baraque et de bar. Je rêve d'être né quelque part en fait. Merde, je me perds, métissé, je reste cul entre deux chaises. Mais qui suis-je pour qu'on m'applaudisse ou me déteste? Qu'ai-je fait pour qu'on me teste? Qu'ai-je fait pour qu'on me blesse? Seul, je n'ai que le rap et personne peut m'en vouloir d'avoir apprécié la gloire, ne serait-ce que pour un soir. Ex, petite fille invisible, accroupie dans un coin de la cuisine, l'oreille déforée par la rime, je la foulais ma vie de rêve. Loin de la fille de merde de ma mère, pleurant sous les rappels du système. Entre le shit, les guns et les flics, j'ai préféré le titre, le son et les chiffres. Mais bien sûr j'ai fini seul, seul avec ma plume, rêvant d'une vie plus qu'alléchante. Alléchante ta putain de peine et que les gens la ressentent. Car les gens me ressemblent, dans le fond les gens saignent. Je le sais, dans le fond les gens s'aiment. Y'a du mal-être dans l'air. On m'a prise pour une merde, on m'a jugé sur mon paraître et ma verve. Mais derrière mes fautes de grammaire, y'avait de la rage. Messieurs, mesdames, je vous le jure, j'avais des tubes dans mon cartable. J'ai vite compris qu'on me prenait pour une conne, autant mes profs que mes potes, une petite blanche dans le hip-hop. Alors je m'exprime, mais je reste sur la défensive. Depuis que j'ai rencontré l'amour avec du sample à les gencives. Alors ouais, je vends des disques, ouais j'ai de la thune. Mais j'ai ces putains de cicatrices qui me perturbent. Rien à foutre d'être une star, d'attendre que le temps passe, elles s'éteignent les stars. Un jour ou l'autre on les remplace. Moi je veux du long terme, soyons clairs. Tous ces putains de disques d'or ne me rendront pas mon père. Mais je les aime, toutes ces unes de magazine. Car pour une fois dans sa vie, ma mère est fière de sa gamine. Ma mère je l'aime en mourir, mais je sais pas lui dire. Alors je lui dédie des titres sur mes disques, je sais pas. Me blottir dans ses bras, j'aimerais, mais j'y arrive pas, c'est trop rare et ça se fait pas, man. Tu sais, aujourd'hui je suis pas guéri, malgré ses rimes, elle est à toi, ma victoire de la musique, man. T'as porté le monde sur tes épaules pour ta môme. Repose-toi, je m'occupe de ton trône. À toutes ces mères qui en bavent jour après jour, une petite banlieusarde vous adresse tout son amour. Méditerranée M, sans la famille c'est plus la même. Chez nous c'est beau comme on s'aime, et le respect c'est dans les gènes.